la pianiste du jazz.
Hier et aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Le 28 février dernier, nous avons consacré la planète du jazz au blues.
Le 28 février dernier, ça n'était pas hier.
Et oui, le blues, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, nous avons largement développé, mais il y a un aspect du blues sur lequel nous voulons insister. Cet aspect, c'est sa tonicité. Le blues, c'est quelque chose de puissant et de tonique. C'est même une de ses grandes vertus.
Et pourtant, comme on vous l'a dit le 28 février, le blues, c'est une musique qui est basée sur 12 mesures qui peuvent sembler répétitives. Et pourtant, avec ça, les bluesmen, ils arrivent à faire quelque chose de tonique. C'est étonnant, hein, mais quelque chose qui se répète.
Oui, c'est tonique et c'est jamais ennuyeux, parce qu'il y a toujours quelque chose, à chaque instant, d'original, de personnel, que le bluesman apporte à ce qu'il chante ou à ce qu'il joue. Mais nous allons également, là, avoir des jazzmen.
Oui, c'est-à-dire, là, c'est plus des chanteurs, où il y en a peut-être un qui chante. En réalité, l'autre aspect du blues, c'est que, sans parole, on va faire une musique très variée.
D'ailleurs, une des expressions des jazzmen, quand un type joue vraiment quelque chose de bien, de personnel, qu'on suit avec attention, même quand c'est très simple, ils disent « ce type-là raconte une histoire ». Donc, on peut raconter des histoires sans parole, rien qu'avec de la musique, et nous allons vous le prouver. Mais on va quand même commencer par un chanteur et guitariste qui s'appelait Albert King.
Alors, celui-là, on peut dire que ses débuts, c'était un peu logique. Papa était pasteur itinérant. C'était très courant à l'époque. Il avait eu 13 enfants, ce qui était très courant à l'époque aussi. Mais maman, ses 13 enfants, ça l'empêchait pas du tout de chanter à l'église. Donc, il était fait culturellement, familialement, pour faire du jazz, du blues, du gospel. Enfin, ce qu'on fait en jazz, quoi.
D'ailleurs, il a beaucoup chanté à l'église quand il était petit et il a commencé sa vie dans le gospel, en fait. Et puis, peu à peu, il a diversifié ce qu'il faisait, puisque tu sais qu'il fallait gagner sa croûte et que ce n'était pas toujours facile parce que ça se passait dans le Mississippi.
Il avait d'abord commencé parce qu'il n'avait pas d'instrument, ce pauvre petit bichon-là. À 8 ans, il s'était fabriqué lui-même sa guitare. Alors, les parents voyant ça, ils se sont laissés un peu attendrir et ils lui ont offert une guitare. Et c'est de là que c'est parti.
Oui, mais quand cette guitare est arrivée dans sa vie, eh bien, avec son outil initial, il avait déjà appris à jouer complètement. Nous allons maintenant retrouver Albert King, donc chanteur et guitariste, dans un concert, parce que l'enregistrement est en public. Et justement, cette émission consacrée à la tonicité du blues commence par un blues d'Albert King qui s'appelle...
Blues Power.
On peut pas rêver mieux, hein. C'est l'époque également du mouvement Black Power chez les Noirs d'Amérique. Donc il y a un parallèle qui est fait entre les deux, mais nous ne vous parlerons pas davantage des engagements politico-sociaux d'Albert King, car cette émission reste discrète sur ce genre de considération. Blues Power.
The blues. Everybody from one day to another has the blues. You take the little baby that's laying in the cradle. He can't get that milk bottle fast enough. He go to kicking and crying and going on tearing up the little baby bed. He got the blues. Can you dig it?
Yeah.
You take this girl that's got this main squeeze, that's her boyfriend that is, you know, and he just bought a brand new GTO. You know she wanna be with him every time he cranks it up and go around the corner to the soda fountain. This is why she wanna go and show it off where all the guys and gals be, you know what I mean? And she get ready to go out this particular night, and her mother said, "Daughter, you was just out last night. You can't go out tonight. That's too many nights in a row." She go in the room and fasten the door and won't answer the phone, won't eat, won't talk to nobody. She got the blues. That's what's wrong with her. Some people call them the reds, the pinks. When you get through, it's the old-fashioned country blues. That's right. I ain't seen my main squeeze in 10 long weeks today. You know I got the blues. Can you dig it? You believe I invented blues power? Yeah. Can you dig the blues power? Yeah. Let everybody say yeah. Yeah. Say it again, say it. Yeah.
Thank you.
Et maintenant, on ne chante plus, on passe au jazz et à l'instrumental. Et voici une réunion de jazzmen jouant très bien le blues.
D'ailleurs, le titre s'appelle « Calling the Blues ». C'est une façon de dire « call ». « Call », ça veut dire « appeler ». Ça peut se traduire par « l'appel du blues ». Et c'est vrai que pour un jazzman, le blues, c'est une forme d'appel intérieur à raconter ce qu'il a en lui. Que ce soit donc par des paroles, quand c'était le blues chanté, mais la musique qu'il a en lui. Voyez, c'est fort, hein.
Et c'est pour ça qu'un de mes amis, Alain Marquet, lors d'une interview où nous parlions blues, m'a dit « Le blues, dans le jazz, c'est la base de tout. » Et en fait, c'est le sens, la capacité à s'exprimer soi-même dans une musique.
Ça s'explique d'ailleurs assez bien, parce que comme c'est une musique très simple de base, on peut improviser autour des centaines de choses différentes. Vous savez, nous, en musique trad, on a un peu la même chose. On a quelquefois des musiques dont les gens un peu savants disent « Ah, c'est toujours la même chose !» Mais pas du tout. Elle est simple de base, et après, eh ben, chacun va y mettre son soi-même.
Et tu remarqueras que toutes les musiques ont leur blues. Tenez, en Auvergne, le blues de l'Auvergnat, ça s'appelle...
Ça s'appelle le regret.
Il y a des tas de morceaux qui sont des regrets, comme dans le jazz, il y a des tas de morceaux qui sont des blues. Ce que vous allez entendre, donc Calling the Blues, se passe sous la houlette et la direction de Tiny Grimes, qui était un guitariste alors... totalement fondu de blues également. Autour de lui, la tonicité règne, il s'agit de musiciens vigoureux. Jesse Higginbotham au trombone, Eddie Davis, dit mâchoire d'acier au saxophone ténor, et Ray Bryant au piano.
Thank you.
Nous avons parlé des possibilités infinies qu'offre le blues aux improvisateurs. Et en voici une illustration, puisque vous allez entendre deux fois le même morceau. Ah, elle est bonne.
Ce morceau s'appelle Blue Harlem. Bon, déjà, vous connaissez tous ce nom de Harlem, qui est un ancien nom hollandais, d'ailleurs, et devenu américain. Et c'est le quartier des Noirs à New York, où il se passe plein de choses à Harlem. Et là, c'est un musicien qui s'appelle Ike Quebec. Alors lui, vous allez l'entendre au ténor, au saxo ténor. Mais il a commencé comme pianiste, et puis finalement, il a évolué vers le ténor qui lui offrait peut-être moins de rigueur et plus de possibilités.
Et là, ce blues est un blues très profond, parce que le blues, il y a de la tonicité, mais aussi beaucoup de profondeur. Alors là, Ike Quebec en est une très belle illustration. Et quant à l'improvisation, eh bien, vous allez entendre les deux versions successives qu'il a enregistrées ce jour-là. On ne sait pas forcément pourquoi on a privilégié l'une plutôt que l'autre pour la publier, mais heureusement, un rééditeur consciencieux et bien documenté a eu à cœur de rééditer aussi la version qui était restée inédite.
Et vous allez voir comme c'est pas pareil, l'une et l'autre. Étonnant, non ?
Blue Harlem.
Thank you.
terminer cette émission dans le Texas, parce que les trois morceaux que vous allez entendre sont le fait de gens qui sont nés au Texas. Et c'est le moment de vous dire que, à force de connaître le jazz, les gens et leurs origines, on s'est aperçu que les Texans avaient quelque chose de particulier.
Alors c'est étonnant parce que le Texas, c'est un des grands endroits de la country. Vous savez, cette danse avec, où les types, ils ont des... et les filles ont des chapeaux texans, dansent avec des bottes, etc.
Ah, le Stetson et la Santiago.
Eh ben voilà. Eh ben pourtant, de là, de cet endroit où la musique blanche, traditionnelle, qui est la country, fleurissait...
Oui. Mais moi, je constate que les trois personnages dont nous allons parler maintenant, ils ont tous fichu le camp du Texas assez rapidement. D'ailleurs, c'est vrai que c'est pas propre au Texas, ça, puisque pour la plupart des gens, le voyage est parti du sud pour aller au nord. Hein, c'est
oui,
un trajet classique.
Et c'est ce qu'a fait Buddy Tate, le premier qu'on va entendre.
Pour lui, c'est passé par Kansas City. La musique qui régnait à l'époque où l'orchestre de Count Basie a débuté, il a beaucoup joué chez Count Basie par la suite, d'ailleurs, où il a remplacé Archie Evans. Et Buddy Tate, c'est, comme tous les Texans, un type qui a beaucoup de force et beaucoup de simplicité et qui illustre justement notre propos sur la tonicité du blues.
Alors le titre, il est spécial, hein? When I'm Blue. Ça veut dire quand j'ai le blues. Alors on se demande, quand j'ai le blues, c'est quoi? Est-ce que c'est je suis complètement déprimé, je suis triste? Non, c'est pas ça. C'est quand j'ai peut-être un problème et puis que je veux l'exprimer. Comment l'exprimer? Eh bien, je vais le jouer ou je vais le chanter. Le blues, c'est un peu ça.
C'est une séance d'enregistrement qui a eu lieu à Paris pour un label qui s'appelait Black & Blue. Et il y a eu une maldonne quelque part sur les horaires. Et moi qui étais juste chargé d'aller chercher le batteur à la gare de Lyon, qui était Wallace Bishop, je me suis retrouvé au studio avec le dit batteur, avec Milt Buckner, l'organiste. Et avec Buddy Tate, évidemment, je connaissais très bien tous ces gens-là. On a monté la batterie, on a installé les micros, les musiciens, on a fait la balance, on a attendu qu'arrivent les gens pouvant donner le feu vert, mais ils n'étaient toujours pas là et les musiciens m'ont dit « Bon, faut qu'on commence, hein, on y va ». Alors, la séance a commencé, donc, pour ces trois musiciens. Et je me suis souvenu que, puisque j'avais déjà travaillé dans ce genre de choses, je me suis souvenu que quelque chose de très important avec des musiciens comme ça, c'est d'enregistrer au moins un blues lent ou moyen lent plutôt. Et donc, je l'ai proposé à Buddy Tate assez rapidement. Et c'est là qu'on a enregistré ce morceau que vous allez entendre, qui dure très longtemps d'ailleurs, parce qu'ils étaient complètement partis dans le blues. Et en plus, on avait éteint les lumières dans le studio. Ça s'est passé dans le noir pratiquement. C'est très curieux. Il y avait juste la grande fenêtre de la régie qui éclairait le studio, et puis c'était tout. Et cette espèce de pénombre m'a toujours été rappelée par Buddy par la suite, lorsque nous en avons reparlé. Thank you.
Thank you.
Voici un autre Texan, formidable pour le blues lui aussi, d'un style différent, et également au saxophone ténor. Celui-là s'appelle...
Arnett Cobb. Si on pouvait définir cet homme-là, on dirait c'est un battant, c'est un courageux. Parce qu'il lui en est arrivé des choses, ce pauvre homme. Il a eu une petite santé, et puis pour couronner le tout, un jour qu'il était dans un autocar avec l'orchestre Hampton, il a eu un épouvantable accident. Il en est sorti vivant, mais alors par contre, opération, hôpital et tout ce qu'on voudra. Et ce gars-là, il n'a jamais baissé les bras.
Parce qu'il avait quand même été copieusement estropié dans cet accident. Et il jouait, et c'était toujours un grand moment, parce que d'abord il avait une petite santé, mais une grande carcasse. Hein. C'était un type taillé comme un troisième ligne, hein, déjà. Hein. On sentait quelque chose de très fort dans son physique. Il avait une tête, un visage et des expressions qui allaient absolument avec. Quelque chose de toujours âpre et vigoureux. Et voici une bonne illustration de tout cela.
Avec Cobb's Blues. C'est le blues de Cobb.
Le titre a été facile à trouver. Et nous allons terminer cette émission par un troisième Texan. Celui-là, il jouait de la trompette et son chemin, comme pour Buddy T, était passé par Kansas City.
Il avait une très très belle technique. Une si belle technique que énormément de gens l'ont comparé à Armstrong. Et à la limite, ça finissait franchement par l'énerver.
Il faut quand même souligner que son alpha et son oméga musical, c'était
Armstrong.
C'était comme ça qu'il était, Lips Page. Il était aussi vigoureux que tous les Texans que nous avons entendus. C'était un très grand trompettiste et un très grand chanteur. Un des plus grands, hein. C'est une véritable statue dans le jazz, Lips Page. Et très, très, très porté sur le blues. Alors voici donc pour terminer notre émission, un morceau dont nous ne traduirons pas le titre et qui s'appelle
Bottom Blues.
Thank you. C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.